Donc nous allons recommencer par un temps de prière. Le pape Benoît XVI disait qu'il y a autant de formes de prière que de personnes dans le monde. Donc nous allons prier ensemble et chacun étant un être unique pour Dieu, le bien-aimé de Dieu, chacun de façon personnelle, à travers le texte d'évangile que je vais lire. Voilà, il s'agit de la relation personnelle de chacun d'entre nous avec Dieu. C'est Dieu qui, comme un amoureux, nous regarde. C'est lui qui nous cherche avant que nous ne le cherchions. Donc je vais lire ce texte et puis je propose que nous restions 2-3 minutes en silence. Pour sortir du silence, je taperai sur le bol tibétain et après il y aura mon témoignage, une pause et nous parlerons de la souffrance et de la mort dans la vie du Christ. La proposition de ce matin pour des questions demeure, même si je ne sais pas très bien quand, comment l'honorer, mais poser des questions, c'est toujours riche, même si on n'a pas de réponse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une part de l'évangile de mercredi de la semaine dernière. Jésus leur déclarait : Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. J'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu pour vous parler. Donc j'ai envie de dire, comme le pape François, priez pour qu'il m'éclaire. Je vais essayer de vous dire, à travers mon témoignage du temps passé dans la grave maladie et l'approche de la mort, je vais essayer de vous dire à la fois les points d'appui, puisque ce matin nous avons beaucoup parler des remises en question, de descendre dans nos émotions. Vous parlez des points d'appui, nous sommes tous différents, donc je peux dire les miens, mais j'ai eu la chance, et j'aime beaucoup ça, d'accompagner beaucoup de personnes. Donc c'est pas seulement personnel, c'est ce que je vois, ce dont je suis témoin chez d'autres. Des points d'appui pour traverser nos peurs de la mort. Alors, je situe ce livre « Préparer sa mort ». Je l'ai écrit quand j'étais en 2001, quand j'étais encore en traitement. Et c'était le message que je voulais laisser à mon mari et à nos enfants si je mourais. Et puis c'était aussi le message que je voulais laisser à tous ceux qui avaient cette approche de la mort. À un moment, quand j'étais malade, j'ai cherché entre deux séjours à l'hôpital en 92, la première fois où j'étais malade. J'ai cherché des livres qui pourraient m'aider et j'ai trouvé des méthodes. Avec premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'ailleurs de gens connus. J'ai feuilleté ça, je me souviens, à la procure. Et je me suis dit, waouh, ça doit être pour les gens qui vont bien. Et qui, allant bien, peuvent suivre une méthode. Mais moi, je ne me voyais absolument pas dans cette méthode, parce que tout était mélangé en moi. Donc, je me suis abandonnée à la grâce, comme j'ai pu. Et ce dont je me rends compte, c'est que quand nous avons, le mot qui me vient, c'est la chance de faire des expériences qui deviennent des fondements dans notre vie, qui la changent, nous ne pouvons pas les garder pour nous. Comme me disait une amie venue me voir à l'hôpital la première fois, quelqu'un de très proche, elle me disait « Nicole, tu n'as pas le droit de garder ta mort pour toi. » Elle n'y était pas allée par quatre chemins. Et effectivement, je crois que, ayant eu cette chance, je ne peux que partager, parce que j'ai appris à aimer la vie intensément, ce qui n'était pas le cas avant. Et aimant la vie intensément, finalement, à m'ouvrir bien davantage. Et voilà. Alors, comme je l'ai dit ce matin, la mort, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand la mort rôdait autour de ma vie, j'ai appris à vivre et à mourir plus que je ne l'avais fait jusqu'alors. Et pourtant, quand j'étais enfant, et ça a été un point d'appui depuis mon enfance, il y avait un saint dont j'ai oublié le nom, mais beaucoup d'entre vous doivent le savoir, à qui on avait demandé « Que ferais-tu, c'était un enfant, si tu devais mourir bientôt ?» Et il avait répondu « Je continuerai à jouer au ballon. » C'est qui ? Non, c'était un autre. Mais ça m'échappe régulièrement. Non, c'est pas Dominique Savio. J'avais pensé que c'était
Louis Gonzague.
Je crois, oui. Et depuis mon enfance, j'ai médité cette parole, jouer au ballon, il continuerait à jouer au ballon. Voilà. Mais néanmoins, quand, pour de vrai, la mort montre son nez et elle la montre dans la maladie grave, eh bien, on n'est plus dans la tête avec ce qu'on imagine qu'on va faire, on est dans le concret, archi-concret. Et ce dont je voudrais témoigner, c'est que, en fait, les choses changent complètement. On n'est plus dans le même monde. Et d'ailleurs, quand nous nous retrouvons entre malades, nous parlons de façon différente de la façon dont nous parlons avec les bien portants. Quand j'ai séjourné au plateau d'Assy pendant 4 mois, dans un établissement où on était 110 à peu près, et le taux de décès était de 50%. Ça vous dit quelque chose. Donc en 4 mois, j'en ai vu beaucoup disparaître. Et nous, nous parlions de la mort. Nous, nous parlions de notre vécu. Les bien portants, nous les ménagions. Donc la mort, c'est... Quand la mort est là, c'est de nouvelles choses qui se réveillent en nous. C'est, pour certaines personnes, évidemment, une fuite, c'est vrai. Mais quand on a, selon le chemin qu'on a fait d'une part, et d'autre part, selon les rencontres qu'on fait, c'est l'occasion de se mettre en quête d'un essentiel. L'occasion de se mettre à relire sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je voudrais en faire? Et à ce moment-là, c'est comme une renaissance qui devient possible. Et je vous assure que c'est vrai chez la plupart des gens. Et que si nous n'en sommes pas davantage témoins, c'est parce que énormément de malades ménagent les bien portants. Parce que l'une des choses les plus dures que j'ai vécues, et j'en ai parlé avec d'autres personnes malades, c'est le poids des bien portants. C'est atroce, c'est terrible, c'est douloureux, le poids des bien portants. Non pas parce que nous sommes jaloux, mais parce qu'ils ne veulent rien entendre. C'est « mais tu es fatigué, mais tu sais, tu es comme tout le monde. Mais oui, tu dis que tu vas mourir, mais tu sais, on va tous mourir. » C'est-à-dire que ou c'est banalisé ou c'est dramatisé. On se met à rire, mais me disait une infirmière, mais vous savez que vous risquez de mourir. On se met à pleurer, allez, ne pleure pas. C'est pas moi, ça je l'ai entendu, pas des dizaines, des centaines et des centaines de fois. Et je tiens à dire ça parce que vraiment, le regard de ceux qui accompagnent les personnes malades est extrêmement important pour que ces personnes puissent aller à ce qui fait vivre, à ce qui est fondamental. Et quand on ne les accompagne pas, on les prive d'un essentiel. Cet essentiel qui est la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle peut comprendre les besoins religieux, mais il y a des gens qui occultent par le religieux leurs besoins spirituels. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous ne posez pas de phrase, vous dites « expliquez-vous ». Voilà. Donc, chaque être humain a en lui des besoins spirituels. Les besoins spirituels, c'est fondamentalement le besoin d'accomplir sa vie, le besoin d'être un être humain. Et être un être humain, on a parlé de l'amour ce matin, mais ça veut dire pouvoir dire son amour, ça peut vouloir dire aussi se réconcilier, demander pardon, transmettre un message, toutes ces choses qui font les besoins spirituels et qu'on retrouve chez chaque être humain. Et puis, le besoin spirituel peut s'épanouir dans cet essentiel qui est pour celui qui a fait l'expérience de rencontrer Dieu, dans la relation à Dieu. Mais on peut aussi parce que nous sommes doués pour chercher des refuges et nous en avons besoin, ne pas vouloir voir la mort en face, et je l'ai vu aussi, se réfugier dans toutes sortes de prières et ne pas vivre ses besoins spirituels, soit personnellement, soit parce que l'entourage se réfugie dans ça. Quand j'ai entendu dans des aumôneries d'hôpitaux dire « on voudrait leur faire comprendre que la mort est le plus beau jour de la vie », mais j'en ai des pages de témoignages, j'ai simplement copié ce qu'on me disait. On voudrait pouvoir leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, on voudrait, etc. La personne, elle est seule, parce que, et on verra ça avec, quand on parlera de Jésus, on ne peut pas l'accompagner. Et le pire, c'est quand on dit, avec la prière, tout s'arrange, tu ne dois pas avoir peur. Quand je faisais mes études de théologie, je me souviens d'un copain jésuite que j'aimais bien, et le jour où je lui dis, ben voilà, je crois que j'ai rechuté, à ce moment-là, il me répond, Nicole, je prierai pour toi, et excuse-moi, je suis pressée. Et le nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, on va prier pour vous, mais c'est tout, mais surtout pas entendre mon vécu. Donc à ce moment-là, on plaque du religieux bouche-trou, on fait de Dieu une idole, alors que Dieu, c'est quelqu'un avec qui on entre en relation. Et entrer en relation avec Dieu, ça se fait aussi à travers les frères. La question, quand la mort approche, ce n'est plus tellement les pourquoi. Les pourquoi, on peut les dire quand il y a certaines forces. Mais plus la mort nous frôle, plus la question est comment. Comment faire pour continuer à vivre? Comment je vais faire pour vivre? Et on a besoin, c'est un besoin fondamental, de quelque chose qui fasse tenir notre vie, qui puisse même traverser la mort, qui soit d'une certaine façon plus fort que la mort. C'est dire que les réponses ne se trouvent pas en réfléchissant, qu'elles ne se trouvent pas dans la tête, mais qu'elles se trouvent dans un vécu. Et ce qui est important, ce qui nourrit nos vécus, ce sont les relations. Nous sommes des êtres de relations. Personne n'est seul au monde. Personne. Et même quand nous sommes seuls dans notre coin, nous sommes reliés au reste du monde, ne serait-ce que par les choses que nous nous disons, en disant « mais les autres ceci, les autres cela ». Personne n'est seul au monde. Donc, d'abord, l'appel d'un essentiel. Certains ont été attirés toute leur vie, et puis d'autres, ça vient en ces moments-là. Vous savez bien, les gens qui s'approchent de la mort, à ce moment-là, ils peuvent s'intéresser à Dieu, ils peuvent, etc. Et quand on est accompagnant, il faut entendre derrière le Dieu magique, la quête du vrai Dieu. J'ai commencé par l'histoire d'un pasteur protestant super de Genève qui me parlait de son fils atteint d'une leucémie, mais il avait 16 ans. Et un jour, le fils demande à son père, « Papa, est-ce que la vie est plus forte que la mort ?» Le père était quelqu'un qui parlait bien, était un homme de prière, était chaleureux, mais il m'a dit, mais là, c'était mon fils. Alors, je suis restée sans parole. Et c'est le fils qui a repris la parole et qui lui a dit, oui, la vie est plus forte que la mort parce que l'amour est plus fort que la mort. Voilà ce qu'a dit ce garçon de 16 ans à son père pasteur. Donc, comme on l'a dit ce matin, ce dont nous avons tous besoin, à toute heure de notre vie, c'est d'être aimés et d'aimer. Et l'amour, c'est notre quête à tous. Et quand la mort rôde, on peut se dire « c'est trop tôt, j'ai encore des choses à faire ». On se dit aussi « je n'ai pas assez aimé ». Que de fois je me suis dite quand j'allais mal, ou quand, entre 92 et 98, je ne me suis pas rendu compte que je pouvais rechuter. Mais en 98, ça a été tellement fort et j'ai passé tant de semaines à glisser jusqu'à la mort avec tous les symptômes des mourants. Je ne le savais pas, mais on me l'a dit après que j'ai compris ça. Et puis, ça a mis 12 ans ou 15 ans, je ne sais plus, pour qu'on me dise qu'on m'estime guérie. Et entre-temps, il y avait régulièrement des examens qui n'étaient pas bons. Donc, la mort m'accompagnait quand même assez concrètement. Et cette question qui revient, c'est « je n'ai pas assez aimé, je n'ai pas assez accueilli tout ce qui est bon ». Et ça descend dans la vie de chacun selon ce qu'il a vécu. Est-ce que j'ai aimé, c'est finalement, est-ce que j'ai assez accueilli l'autre ? Et paradoxalement, au fur et à mesure que cette question du mourir nous emplit, la question est de moins en moins, est-ce que j'ai été assez aimé ? Et de plus en plus, moi, est-ce que je n'ai pas assez aimé ? Mais maintenant où le passé devant la mort ne compte plus, où l'avenir, je ne peux plus faire de projet. J'ai passé, maintenant ça me fait drôle, depuis 3 ans, je refais des projets, mais j'ai passé 15 ans sans faire de projet. Quand je m'engageais, je disais, oui, si tout va bien. La seule chose qui reste à faire, c'est l'instant présent. Et donc, c'est un apprentissage de l'instant présent. Et dans cet apprentissage de l'instant présent, ce qui se fait, c'est un enfoncement dans la parole de Jésus, mais d'un point de vue simplement humain, spirituel aussi, mais déjà simplement humain, perdre sa vie pour la trouver. Perdre sa vie, c'est-à-dire perdre tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on voudrait construire. Et puis, comme je vous le disais dans le mot de, dans le message de Jean, reçu il y a 2 jours, que je vous lisais ce matin, c'est l'apprentissage de tout ce qui nous est donné dans l'instant présent. Et ça, c'était extraordinaire parce que tout me semblait à sa place en ce monde. Et je n'ai jamais été aussi heureuse, y compris quand j'étais jeune, folle amoureuse. Apprendre à vivre, j'ai donc expérimenté à ce moment-là, à travers perdre sa vie et la trouver, que apprendre à vivre et à mourir, c'est tout la même chose. Et dans cet apprentissage, ma démarche humaine et ma démarche de foi n'ont jamais été séparées. Plusieurs fois, on m'a demandé, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes une psy que vous avez vécu comme ça ? La réponse que j'apporte, c'est que comme psy, ça veut dire que j'ai passé beaucoup d'années à travailler intensément sur mes émotions et mon vécu. Donc effectivement, ça c'est une aide pour vivre ce qui est là. Mais tout le monde n'a pas ce chemin. Et ça ne veut pas dire que pour les autres, le chemin est bouché. Ça, parce que ça se dessine tout seul par les conditions, c'est vraiment, tout est, tout est renouvelé, c'est de l'ordre de l'urgence, vous savez. Comme vous vous souvenez des attentats de New York, avec les gens qui envoyaient des SMS « Je t'aime ». Et c'était, ils vivaient juste l'instant présent. Et là, on est convoqué à vivre l'instant présent. Et cette convocation à vivre l'instant présent fait que nous pouvons reprendre toute notre vie avec un regard nouveau. C'est-à-dire ne plus faire des montagnes du passé, que ce soit les choses bonnes ou les choses pas bonnes, et le relire juste là. Et je peux, d'une certaine façon, commencer à vivre à chaque instant. Surtout que je ne sais pas, dans l'instant suivant, ce que ça va être, comme une renaissance. Alors, je vous ai dit apprendre à mourir, apprendre à vivre. Apprendre à mourir, c'est envisager la séparation de ce CEUX qu'on aime. C'est aussi abandonner tout ce qu'on a entrepris dans la vie. Pour moi, mère, c'était beaucoup laisser mes enfants. Laisser mon mari, laisser mes enfants. Mais mon mari, il était adulte, mes enfants, ils étaient encore jeunes. Et puis, c'est la solitude, pas seulement parce que personne ne peut assumer notre mort à notre place, mais à cause des réactions des autres. On est très, très seul. Et quelquefois, cette solitude, ça va jusque dans le monde religieux, dans le monde de la foi, eh bien, notre relation à Dieu, elle est, j'allais dire, rétrécie en « on va faire des prières ». Alors que, en fait, il ne s'agit plus de prières. Et puis, en plus, quand on est dans le cirage, prier, ça veut dire quoi ? Je me suis rendu compte récemment, mais je priais sans arrêt et je croyais que je ne priais pas parce que j'étais tout le temps dans le cirage. C'est ce qui se dessine là, c'est la relation avec un essentiel au fond de soi que certains d'entre nous nomment Dieu et puis d'autres n'ont pas de mots. C'est dommage, mais avec cet essentiel au fond de soi, et qui pour moi est un autre, et qui est Dieu. Et dans cet essentiel au fond de soi, ça va avec ce que j'ai déjà dit ce matin, et qui me semble fondamental, accepter de ne rien maîtriser, de ne rien maîtriser. Et donc, cette approche de la mort, c'est essentiellement une approche de la démaîtrise, dans la spiritualité carmélitaine, mais dans toutes les spiritualités, on parle beaucoup du mouvement d'abandon, s'abandonner. S'abandonner à l'instant, s'abandonner à Dieu. Et c'est là qu'on se met à découvrir que tout est donné parce qu'on ne peut plus rien faire. Alors, je vais le dire un petit peu plus concrètement. Si j'ai pu apprendre à vivre, c'est parce que je n'ai jamais été seule. Et je trouve que c'est un cadeau immense qui m'a été fait. Mais ça a été un apprentissage à ma première leucémie en 92. J'avais peur. Je me souviens un soir, on m'a dit la réa et la réanimation est prévenue. J'ai dit, est-ce que je peux mourir cette nuit ? Le médecin m'a répondu oui. Et je n'ai pas osé téléphoner à mon mari de peur de le déranger. Et un ami était de passage et il a passé la nuit à prier à mon chevet. Et il a fallu apprendre à demander, apprendre la dépendance, apprendre à être petite. Et après, petit à petit, mon mari a compris et lui aussi fait son chemin. Et ce n'est pas un chemin facile parce que les accompagnants aussi passent par des hauts et des bas. Par exemple, on lui a dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi. Et puis finalement, je suis vivante. Donc on s'est préparé à la mort de quelqu'un et la personne est morte. Et pourtant, il s'agit de mourir à quelque chose. Il s'agit de mourir au monde qu'on avait construit. Et mon mari après m'a accompagnée. Et les soignants aussi. Et je leur dois infiniment. Par exemple, un moment où j'ai beaucoup appris, c'est quand j'étais en réanimation pulmonaire, avec des drains partout, sous oxygène. Et là, j'étais dans une dépendance totale, c'est-à-dire que si on me mettait la poire dans les mains pour appeler, je n'avais pas la force de presser dessus. Et on lavait mon corps comme le corps d'un bébé. Et je me souviens qu'une infirmière, en me lavant, me parlait de sa petite fille de quelques mois et du bonheur que c'était pour elle de laver sa petite fille. Et c'était une façon très pudique de me dire combien je comptais pour elle. Et comme je trouve que la vie est bien faite, eh bien, ces soins qu'on a pris de mon corps, et on trouve que la dépendance est dure, eh bien, ça a été le contraire. J'ai eu, ça peut arriver à d'autres, une mère qui ne m'a jamais prise dans ses bras, qui ne m'a jamais câlinée. Et c'est vrai que c'est un manque, c'est encore une souffrance maintenant, mais c'est en même temps une ouverture du cœur, parce que je sais ce que c'est que ce manque-là. Et quand cette infirmière me lavait avec tant et tant d'amour, je peux dire qu'elle a guéri des blessures que je n'ai même pas pu, que j'avais abordées en thérapie, mais qui étaient encore là. Elle les a guéries par cet amour absolument gratuit. Dans l'amour que j'ai reçu quand j'étais malade, j'ai appris que aimer, ce n'est pas seulement exprimer à l'autre qu'il compte pour nous, ce n'est pas seulement prendre soin de lui, mais lui faire confiance. Et ça m'a énormément portée et ça me porte encore. On m'a aimée jusqu'à me faire confiance. Olivier, mon mari, m'a dit la deuxième fois, j'ai peur de la mort, il faut que tu m'aides. Alors que je rechutais et que, bon, ben, c'était pas joyeux. Dans ma paroisse, beaucoup de gens qui m'aimaient m'ont dit, Nicole, on compte sur toi. Et donc, j'avais pas à être une héroïne, j'avais comme dans, quand on fait de la montagne, j'étais un peu comme une première de cordée, sans savoir après ce qui allait se passer. Et cette confiance fondamentale que l'on a mise en moi, elle m'a puissamment aidée, parce que ça voulait dire que chacun comptait sur moi, comptait que j'avais quelque chose à lui apprendre sur la façon dont on peut vivre sa fin de vie, sa mort. Et j'étais pleine de leur aide, j'étais pleine de leur confiance, j'étais pleine des soins qu'ils me donnaient, et puis j'avais confiance en eux, et cet échange de confiance nous apportait de part et d'autre. Mais voilà, on dit que les personnes malades, il faut qu'elles aient des projets. Bof, des projets, vous vous imaginez bien. D'accord, ça peut être la naissance du petit enfant, ça peut être, je ne sais pas quoi, finir, repasser un examen, ça peut être... Mais un projet à la hauteur de la mort, qu'est-ce qu'il va y avoir comme projet à hauteur de la mort? Sinon, donner la vie. Et ce qui m'a été offert à travers la confiance qu'on avait envers moi, c'était... de mourir en donnant la vie, en transmettant la vie, en disant ce qui se passait, dans tout lâcher, tout ne rien, plus rien pouvoir faire par moi-même, dépendre totalement, physiquement, émotionnellement, psychiquement, au niveau de la foi, car c'est drôle, je ne savais pas si j'avais la foi. Et pourtant, m'habitait sans arrêt cette parole, que jamais je ne sois séparée de toi. Et humainement, et on ne peut pas séparer l'humain et la foi, il y avait tous ces gens qui attendait quelque chose de moi. Je peux dire que l'approche de la mort m'a fait mordre à la vie et la découvrir. La première leucémie en 92, j'étais partagée entre contente de mourir et pas contente. Et mon mari dit, t'exagérais quand même, j'étais de passage à Saint-Benoît-sur-Loire, j'ai pas mis ma montre et je voudrais savoir l'heure. J'ai combien de temps encore? Un quart d'heure? Quoi?
C'est pas marqué sur la feuille.
Sur ma feuille, il y a écrit jusqu'à 15 heures. Donc je suis à l'heure. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Comment? Voilà. Et donc à ce moment-là, je lui téléphone en lui disant « Je vais mourir bientôt, je vais voir Dieu ». Il me dit, moi, à l'autre, je vais bien, je vais mourir bientôt, je vais voir Dieu. Il me dit, à l'autre bout du fil, c'était pas évident. Et quelques jours après, je me disais, mais toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Et c'est si difficile de vivre avec lui, c'est si difficile de le connaître. Enfin, le voile va se déchirer. Et quelques jours après, à l'hôpital, j'ai compris, j'étais vraiment en triste état, je vous ai dit 98% de cellules cancéreuses. J'ai compris, Dieu t'a donné la vie, alors tu n'as pas le droit de te laisser aller à la mort. Et à ce moment-là, j'ai tout fait intérieurement pour vivre. Et les soignants m'ont dit d'ailleurs qu'ils ont été témoins du fait que pendant une semaine, je glissais vers la mort et que tout d'un coup, il y a eu un sursaut. Et ça, c'était un tournant fondamental dans ma vie. Parce que à ce moment-là, je me suis mise à aimer la vie avec passion. Ce qui a rendu les choses plus difficiles quand j'ai rechuté. Et là, mon mari m'a dit, nous entrerons ensemble à l'hôpital. Ensemble, c'est-à-dire aussi avec sa peur de la mort. Mais voilà, il y avait tous ces gens qui comptaient sur moi. Donc, on était vraiment ensemble, c'était moi qui allais mourir, mais nous soutenions les uns les autres. Et puis des petites choses comme ça, quand je suis allée chez mon psychanalyste, je me souviens lui avoir dit, si je le raconte dans mon livre, si je vivais, je ferais ci, ça, etc. Et il a eu le culot de me dire, j'ai un trou de mémoire. Non, je disais, si je guéris, et lui m'a dit, il était médecin en plus, donc il était un psychanalyste quand même qui connaissait quelque chose. Il m'a dit, si au lieu de dire, si je guéris, vous disiez, quand je guérirai. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement mon corps qui était malade, mais tout mon être. Et que ce qui était le plus malade, c'était mon cœur et mon âme. Et que tout le monde voyait mon corps malade, mais que guérir le cœur et l'âme, ça c'est fondamental. Et alors, avec l'aide des autres, ça m'a engagée dans un travail intérieur qui dépasse le travail psychologique. Une espèce de conversion en m'abandonnant à l'instant présent. Et cet abandon à l'instant présent où j'étais aidée, parce que j'avais aucune force, donc ma tête ne fonctionnait pas. Et là, je découvrais que tout est donné. Et je vais vous raconter encore deux points. Le sacrement des malades, que je raconte aussi. Quand j'ai reçu le sacrement des malades, c'était la deuxième fois, donc j'avais préparé ça pendant un mois intérieurement. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, j'ai fait un mot d'introduction. Et à l'homélie, c'était le père Martelet qui était mon tuteur dans mes études de théologie. Il dit, puis je voyais mon curé qui clignait de l'œil en se disant, tiens, il dit, Nicole, vous avez dit tout faux. Quand vous présentez le sacrement des malades, vous avez dit que Dieu allait vous aider à vivre la maladie. c'est faux. Alors je vois à ce moment-là la tête de mon curé, intrigué, peut-être que certains ici sont intrigués, il dit c'est tout faux, parce que c'est Dieu qui va vivre en vous. Comme dans chaque sacrement, le sacrement c'est pas une aide, c'est Dieu qui vit en nous. Et à ce moment-là, toutes mes peurs sont tombées, et j'ai dit intérieurement, ça a été qu'il m'aide, c'est super. Mais je suis si petite, j'ai juste à lui prêter mon être et mon corps. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans une joie absolument immense tout le temps de ma maladie, qui a été la partie intense, a duré plusieurs mois. Et une autre expérience, quand j'ai quitté mon corps. Alors je n'ai pas vu de lumière comme on décrit dans un certain nombre de livres, de gens qui m'accueillent, mais c'était une sorte de jugement dernier. Il y avait une question qui était posée pendant on était en train de me ranimer, et moi j'étais avec cette question. Et la question était « Acceptes-tu que la vie te soit donnée ?» En train de mourir, et la question était « Acceptes-tu que la vie te soit donnée ? » Et je sentais bien que je pouvais dire oui et que je pouvais dire non, et que ça dépassait ce corps qu'on était en train de réanimer. Après coup, j'ai compris, acceptes-tu que Dieu se donne à toi à chaque instant et que c'est lui le souffle de ton souffle, et donc que... Mais c'est après que j'ai pu mettre tout ça avec des mots, que comme c'est dit dans l'Écriture, celui qui meurt avec le Christ, il vivra. Et ça a été là aussi une libération intense. Je voudrais dire où j'en suis aujourd'hui avec la mort et une nouvelle peur que je viens de traverser de la mort. Et je remercie le Seigneur. Il y a quelques mois, j'ai eu un malaise cardiaque. Je croyais que c'était la pollution, puis j'allais si peu bien que finalement j'ai atterri aux urgences où on m'a gardé 2 jours. Et puis on m'a dit, vous avez tatati tatata. Et j'ai demandé si je pouvais mourir d'un coup. Et personne ne m'a répondu. J'ai demandé, ce que j'ai, c'est grave. Et personne ne m'a répondu. J'ai téléphoné à ma sœur qui est un excellent médecin et qui m'a juste répondu « Ah, je suis vraiment très contente qu'on t'ait donné des médicaments. » Bon, je vois encore un autre médecin comme ça qui me dit « Ah, c'est bien qu'on vous soigne. » Et moi, j'étais toujours avec ma question, ma hantise, je ne veux pas. Voilà, il y avait une espèce de pacte fait avec le Seigneur. Je mourrai après mon mari, parce que pour lui, ce sera trop dur d'être tout seul. Et je ne voulais pas mourir d'un coup, je voulais aussi pouvoir dire au revoir au mien. J'avais été si longtemps malade la première fois que je me rendais compte combien, quel cadeau c'est de pouvoir prendre sa vie et de pouvoir être accompagnée. Et là, pendant quelques mois, j'ai vécu avec la hantise de... pouvoir mourir d'un coup. Alors il y avait un papier à la maison bien affiché si je meurs, et puis j'ai mis au point tout un dossier pour mon mari, enfin j'ai fait vraiment plein de choses, et j'étais angoissée si je meurs d'un coup. Et puis dans ma prière, je n'avais que ça à présenter à Dieu. Ça a duré quelques semaines, que ça. Mais écoute, d'accord, tu es le cœur de ma vie, mais voilà, ça c'est du concret, de laisser mon mari, de mourir d'un coup, de ne pas pouvoir dire au revoir. Et petit à petit, j'ai compris, alors c'est vrai que j'ai pu en parler avec mon mari aussi, et que ça a été une aide. Il m'a juste dit, tu parles quand même beaucoup de la mort, quand il y a un jour où tu n'en parles pas, c'est une exception. Mais ça m'a tellement accompagnée dans la vie, cette affaire de mourir. Et je peux dire maintenant que ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Mais Je sens de l'intérieur, et là c'est du côté de la foi, que puisque j'ai fait l'expérience humainement que je pouvais faire confiance aux autres, je peux faire confiance à mon mari que même si c'est très dur pour lui, il pourra se débrouiller, qu'il y aura quelqu'un, nos enfants peut-être, je ne sais pas, et puis faire confiance à Dieu que lui aussi, il est là pour aider à traverser l'épreuve et que, voilà, je voulais lui mettre des conditions, que j'étais contente de ce qu'il m'avait donné et au lieu de dire merci, à certains moments, je dis mais je voudrais encore ça et encore ça. Et ça me met dans la paix. Et enfin, je veux terminer parce que j'ai déjà dit, comme je ne lis pas toutes mes notes, je ne sais plus très bien, je ne vous dis pas bien en ordre, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un exposé universitaire. Je voudrais dire que, j'allais dire toute ma vie finalement, je ne me suis pas battue contre la mort, mais pour la vie. Et ça, c'est fondamental. Et on peut le dire à quelqu'un qui est proche de la mort. Et quand on accompagne un être cher qui est proche de la mort, on peut lui dire aussi que la lutte, c'est pour la vie, une vie en plénitude. Et alors, à ce moment-là, on peut accepter de perdre. Je me souviens quand j'ai accompagné mon père, bon, après tout, même s'il n'avait pas loupé une messe de sa vie, mais Dieu, il s'en foutait. Après tout, c'était un scientifique, il écoutait jusqu'à l'homélie parce que c'était bon pour la morale, et après, il pensait à des maths et de la chimie, m'a-t-il raconté. Et là, quand je l'ai accompagné, je lui ai dit, vous allez revoir maman. Et il m'a dit, ah, Dieu, bof, moi je suis content de la vie que j'ai eue, mais si je retrouve ma mère était morte assez jeune, 20 ans avant, ah, alors là c'est bien. Et j'ai compris dans cet accompagnement que, en fait, soyons doux, Dieu, il se dessine à travers la quête, peut-être, de retrouver nos morts. Même si le mot de Dieu n'est pas prononcé. Finalement, Dieu est l'amour et nous ne savons pas très bien ce que c'est que l'amour. Nous sommes en chemin pour l'amour. Et alors, voilà. Donc, ce que je voudrais dire aussi, en dernier, que je crois que j'ai déjà dit et qui est important, c'est transmettre ce qui nous fait vivre par-delà nos limites et nos échecs. En s'inscrivant dans la grande chaîne humaine, c'est vraiment important. Et je voudrais dire pour ceux, celles qui ont perdu un être cher et qui n'ont pas pu parler comme ils le voudraient. C'est une grande douleur, je pense, mais le lien continue. Et ils ont une mission qui n'a pas été donnée directement, mais qui va, me semble-t-il, de soi, c'est de continuer à faire vivre ce qui était au fond de l'être de la personne aimée, que cette personne ait pu le dire ou n'ait pas pu le dire, que ce soit juste resté comme un bouton tout petit qui n'est pas encore éclos. Voilà, je suis reliée à ceux qui sont morts avec la charge, dans le lien que nous avons les uns aux autres, de continuer ce qu'ils ont donné et si je ne le vois pas, de l'accomplir. Et à ce moment-là, on se donne la vie les uns aux autres. Et savoir que même si on ne le voit pas, et là je pense à ma meilleure amie dont le fils s'est suicidé, et 10 ans après sa mort, on a fêté il y a une semaine, les 10 ans de la mort de Sam, elle dit combien elle a compris que la quête de son fils, c'était la quête de l'amour, et que ça l'a mise en chemin d'amour. Voilà, je peux vous dire cela tel que je suis. J'espère n'avoir blessé personne. Si je n'ai pas répondu à vos questions, il y a d'autres personnes que moi. Je vous propose, on a dit 5 minutes de pause. Ça peut être, comme vous remarquerez que nous sommes nombreux, et malgré tous les déplacements, nous tenons les temps de façon excellente. Donc nous sommes à l'heure. Donc on avait compté 5 minutes de pause. Ce que je propose, c'est que cette pause soit au maximum en silence. Vous savez, le silence, c'est important dans la vie. C'est vraiment important. Nous ne pouvons parler vraiment que si nous savons être en silence. Donc, ne pas se répandre en bavardage. S'il y a besoin d'aller aux toilettes, on y va, discrètement. Et puis, je voudrais, d'ici 3 minutes à peu près, le temps que chacun aille aux toilettes ou reste en tout cas en silence. Et après, on va faire quelques mouvements corporels pour se détendre avant l'exposé suivant. Mais donc, on ne traîne pas. Hein. Silence, toilette, et voilà. J'entends rien. Vous êtes obligé de partir. Bon, je vais le faire tout à l'heure. Oui. Faites ce que vous voulez.